Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante CENI a convoqué mercredi 2 août à Kinshasa l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux en RDC. Son président Denis Kadima a ainsi fixé l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures du 3 au 22 août, soit 20 jours. Pour la première fois depuis 1987, les électeurs congolais seront appelés à choisir leurs conseillers communaux. Pendant ce temps, dans un communiqué parvenu ce week-end à Radio Capi, la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC exprime son souhait de mener un audit citoyen du fichier électoral en vue de rassurer toutes les parties prenantes afin d'avoir des élections honnêtes et pacifiques dans le délai constitutionnel. Le communiqué insiste sur la nécessité de restaurer la confiance de tous les acteurs dans le processus électoral et favoriser l'acceptation des résultats. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Joseph Senda. Il est directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Joseph Senda, bonsoir.
Bonsoir madame.
Cyril Ebotoko avec nous dans ce studio, il est secrétaire exécutif de la commission épiscopale justice et paix de la CENCO. Il est coordonnateur national de la mission d'observation électorale CENCO-SCC. Cyril Ebotoko, bonsoir.
Bonsoir madame.
Rodrigue Ramazani, aussi avec nous dans ce studio, porte-parole du parti politique En Vol. C'est un parti de l'opposition dont l'initiateur est Deli Sesanga. Rodrigue Ramazani, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux Congolais qui nous suivent de partout.
Et enfin, Deo Bizibou Balola, il est secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et administratives. Deo Bizibou, voilà, bonsoir. Akinzo Maniema, vous nous suivez sur la 103.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur Canal Plus, Channel 572 ou sur DSTV, Canal 867. Mais vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur www.radiookapi.net ou encore en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué le 2 août 2023 l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. La CENI précise que le bureau de réception et de traitement des candidatures seront ouverts et opérationnels du 3 au 22 août 2023, soit 20 jours. On écoute à cet effet Denis Kadima, président de la CENI, dans cet extrait choisi par Alain Hong.
La cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique congolaise. Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux.
C'était la Denis Kadima, président de la CENI. Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, la CENI a convoqué mercredi 2 août à Kinshasa l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux en RDC. Comme l'a dit le président de la CENI, Denis Kadima, ça sera la première fois depuis 1987 que les électeurs seront appelés à choisir leurs conseillers communaux. Cela ne risque pas d'être facile pour la CENI et ça demande beaucoup de pédagogie parce que ça sera une première depuis plusieurs années. Alors comment la CENI fait-elle pour sensibiliser tous ceux qui voudront bien concourir à ces élections?
Merci beaucoup, madame, pour la question. J'en profite pour saluer les compatriotes co-débatteurs ainsi que tout le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Effectivement, vous avez raison de dire que c'est pour la première fois, après de très longues années, que la population congolaise a été appelée à élire des conseillers municipaux. La CENI est consciente que la tâche est lourde, d'autant plus que ça sera pratiquement pour la première fois que nous allons le faire. Mais au même moment, nous pouvons dire que ça aurait été difficile si c'était aligné en 2005-2006, parce que en ce moment-là, la commission ne disposait pas d'une expertise locale dont elle dispose en ce moment. Après plus de 3 cycles, nous sommes engagés dans le 4e cycle. Il faut avouer que le personnel de la CENI a une forte maîtrise du terrain et que de ce fait, la tâche sera plus ou moins facile. Il faut savoir que l'élection des conseillers municipaux se fera le même jour que les 3 autres élections. Donc, du point de vue organisation, eh bien, nous avons l'habitude d'organiser les élections sur l'ensemble du territoire national. La seule différence, c'est que nous ne savons pas combien de candidats conseillers municipaux nous allons avoir à ce scrutin. Mais en dehors de ça, la CENI dispose d'une expertise locale interne à même de conduire ces opérations à la satisfaction du plus grand nombre.
20 jours pour les dépôts de candidature. Pensez-vous que c'est suffisant, Monsieur Joseph Senda?
Bon, je crois que le problème, c'est pas du point de vue de la durée des opérations, mais c'est plutôt le comportement de l'homme politique congolais, en particulier le comportement du peuple congolais en général, avec cette habitude de se réveiller au dernier moment et commencer à se précipiter. Mais nous pensons que, étant donné que nous venons de terminer la députation nationale, les leçons sont fraîches en mémoire pour que les gens s'en servent en ce qui concerne la députation provinciale ainsi que les élections communales. Donc il y a à la fois cette crainte de nos sales habitudes d'attendre les derniers moments, mais aussi les leçons récentes qui sortent de tout ce que nous avons rencontré et en organisant la réception et traitement de candidature à la députation nationale. Ça peut nous aider à mieux nous comporter pour ce qui est de la députation provinciale ainsi que de l'élection des conseillers municipaux.
Alors, parlons des conseillers municipaux, comme ça sera une première fois depuis plus de 30 ans, la constitution des dossiers, les conditions pour les candidats, cela risquerait de demander aux gens de prendre un peu plus de temps pour faire tout cela. Vous ne pensez pas cela?
Non, les fiches restent les mêmes. Ce sont les conditions qui changent. Les candidats conseillers municipaux passent dans les bureaux de réception et traitement de candidature pour y retirer 8 fiches. Nous avons eu 8 formulaires, si vous voulez dire. Nous avons eu l'occasion d'expliquer en détail comment s'y prendre lors du dernier cas de concertation que nous avons eu avec les partis et les groupements politiques ainsi que les jeunes et les femmes au ministère des Affaires étrangères. Nous avons largement expliqué comment il faut procéder pour arriver à constituer son dossier de candidature aux élections municipales. Donc nous pensons que les gens ont compris. En plus de ça, c'est le même personnel qui vient de conduire les opérations de députation, de la réception de candidature à la députation nationale, c'est le même personnel qui va devoir recevoir les candidats à la députation provinciale. Donc le personnel est suffisamment outillé pour le faire, d'autant plus qu'ils vont être là depuis pratiquement le 25 juin. Ils sont là depuis le 25 juin, donc ça fait pratiquement 2 mois qu'ils seront là. Ils ont suffisamment de maîtrise pour donner toutes les explications nécessaires, tous les éclaircissements dont les candidats auront besoin pour constituer leur dossier, les uns à la députation provinciale, les autres aux élections municipales. Donc nous comptons sur notre personnel pour aider les Congolais et Congolaises qui viendront à nos BRTC dans le cadre de du dépôt du dossier de candidature.
Cyrilé Botoko, vous êtes secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Pieds et Paix de la CENCO et vous êtes aussi coordonnateur national de la mission d'observation électorale CENCO-SCC. Alors, votre lecture ou votre analyse par rapport à la convocation de l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux.
Merci madame, je salue mes co-débatteurs de ce soir. Je salue aussi ces nombreux auditeurs de Radio Capi. Il faut reconnaître à la CENI le mérite d'avoir planifié de manière pragmatique l'organisation des élections au niveau des communes, des conseillers communaux, ce qui va nous permettre d'avoir des bourgmestres élus, les conseillers urbains élus, ainsi que les maires élus. C'est une façon de faire un pas de l'avant par rapport au processus de décentralisation de notre pays. Et je suis d'accord avec M. Senda quand il évoque les préparatifs techniques menés au niveau de la CENI. Je suis d'accord avec lui. Sur le plan technique, je ne pense pas que la CENI aura des difficultés pour organiser matériellement ces élections, ces scrutins. Nous avons vu sous d'autres cieux 8 scrutins se tenir le même jour. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais je pense que le problème maintenant, c'est au-delà du travail de la CENI. Nous avons une expérience de plusieurs années aujourd'hui avec les institutions provinciales, caractérisées par des conflits entre les institutions. Ce niveau de gouvernance de notre pays, duquel on attendait qu'on puisse impulser le développement auprès des populations, avec des conflits qu'il y a entre les institutions. On a vécu des scènes de bagarres même dans les hémicycles, les assemblées provinciales. Ça paralyse pratiquement cette administration et je ne pense pas que nous avons eu des résultats escomptés par rapport à ce niveau. Il y a un autre problème par rapport aux provinces aujourd'hui, puisque nous sommes sur terrain. Vous voyez aujourd'hui, l'administration est carrément paralysée à cause des institutions provinciales. Il y a aujourd'hui des députés provinciaux qui vont s'imposer auprès des gouverneurs pour avoir un préfet des études, un infirmier, un médecin, sans tenir compte de l'administration normale de cette structure de l'État. Et ça dérange pas mal, ça permet pas vraiment qu'il y ait cette impulsion développement partie de la base. La crainte est que cet état des choses soit transféré au niveau des communes, au niveau de nos communes. C'est cette gestion conflictogène de l'État au niveau de nos communes, ça va poser pas mal de problèmes et nous risquerons de voir les conflits communautaires de plus en plus grandissants dans notre pays. Parce que c'est le niveau le plus bas, les conseillers qui viendront siéger au sein des conseils municipaux, ils viendront des familles qui sont beaucoup plus proches. Il suffit qu'il y ait des problèmes entre tel et tel, et puis ces problèmes sont transférés au niveau des communautés, au niveau des familles. Il est très important qu'il y ait un forum national pour évaluer la mise en œuvre de notre décentralisation et que des politiques idoines soient prises pour permettre à ce que ces deux niveaux d'impulsion du développement puissent fonctionner comme il se doit et que ces deux niveaux soient au niveau des attentes même de la population.
Est-ce que cela signifie qu'il est un peu tôt d'organiser ces élections au niveau communal?
Je ne le dis pas, je ne dis pas trop parce que ailleurs où on organise ces élections, ce sont des êtres humains comme nous. Nous n'avons pas de queue et qu'il y ait d'autres personnes qui s'intègrent.
Vous
nous
proposez un forum avant la tenue de ces élections.
Identifier les différents problèmes et trouver des solutions pour que ce niveau de gouvernance de notre pays soit réellement des lieux d'impulsion du développement.
Rodrigue Ramazani, porte-parole d'Envol, parti politique de l'opposition dont l'initiateur est Délice Sanga. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Cyril Ebotoko qui propose un forum avant la tenue des élections des députés provinciaux et des conseillers communaux? Communaux, on est RDC.
C'est une idée qu'il ne faut pas mettre en marge dans la mesure où les pouvoirs qui doit mettre en place des politiques publiques en vue de prévenir l'avenir si l'objectif aussi était d'aller jusqu'aux élections municipales, alors que nous connaissons autant de problèmes, comme vient de le souligner M. Cyril. Le problème n'est pas qu'à ce niveau, le problème est aussi au niveau infrastructurel. Il faut préparer les infrastructures qui vont recevoir toutes ces institutions, notamment au niveau de nos communes. Aujourd'hui, avec les assemblées provinciales, nous avons une expérience très amère. Nous voyons, depuis un moment, depuis que ces régimes sont en place, les députés provinciaux qui viennent ici pour faire des sittings devant le cabinet du ministre de Finances, parce qu'ils sont impayés. On décide encore, dans cette marmaille, rajouter des institutions au niveau de nos communes. L'idée, elle est bonne. Les constituants y ont pensé. Là, on voit la même pensée, je crois, en 2019, dans le cadre de notre projet sur la révision de la Constitution, revoir notre système de décentralisation au niveau des territoires, villes et chefs-lieux de province. Nous avons pensé à ça. Mais dans cette tohu-bohu où nous nous retrouvons aujourd'hui, on ajoute encore un autre problème. C'est un problème qui arrive en termes de gouvernance. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour anticiper ? Mais tout porte à croire qu'il n'y a aucune anticipation. Ce n'est pas pour rien que, avant, les élections locales n'ont pas été organisées parce que les problèmes étaient énormes. Est-ce que ces problèmes ont été recadrés, recentrés ? Est-ce qu'il y a une coordination, une cohérence dans la conduite de ces politiques publiques en vue de rassurer que nous n'allons pas connaître les mêmes problèmes ? Aujourd'hui, les combats, c'est de réduire, notamment parce qu'ici, il faut rappeler qu'on va engager, nous allons engager les finances publiques de l'État pour, si je ne me trompe pas, je l'ai dit à la volée, plus de 10 000 sièges qui seront à pouvoir à travers les élections municipales. Donc il faut engager encore les trésors publics. Aujourd'hui, les combats, pour nous l'envol, c'est la réduction du train de vie de l'État. Et non l'augmentation du train de vie de l'État. Il faut penser à un moment donné, développement. Il faut créer des emplois. Il ne faudrait pas que l'IDPS nous amène sa politique, parce que c'est la politique de l'IDPS.
Pensez développement, est-ce que ces élections à la base ne vont pas aider au développement du pays, donc au développement à partir de la base?
Je rappelle ici que ça sera très difficile parce que nous allons encore engager plus les moyens de l'État. L'État n'a pas de moyens parce qu'il est incapable de payer les députés provinciaux, il est incapable de payer les ministres provinciaux. L'État n'a pas de moyens. Nous avons vu ici des députés provinciaux faire des défilés devant le ministère de Finances parce qu'ils ne sont pas payés plusieurs mois. Plusieurs mois, ces députés ne sont pas payés et dans ça, on va rajouter, est-ce que c'est pour faire beau ou c'est vraiment pour la gouvernabilité du territoire?
C'est pas opportun, donc, selon vous, d'organiser ces élections maintenant?
Les élections sont importantes parce que les développements doivent venir de la base. Mais il faut rester pragmatique et réaliste. Est-ce que avons-nous le moyen pour prendre en charge toutes ces institutions? Je réponds non. Parce que l'expérience nous démontre aujourd'hui que le pouvoir est incapable de prendre en charge les institutions provinciales d'abord. Et à rajouter les institutions au niveau communal sans planification. Parce que nos amis au pouvoir aujourd'hui nous ont habitués dans la conduite de la vie de toute une nation de plus de 100 millions de Congolais sans aucune planification. Là, nous allons aux élections, il n'y a pas des infrastructures pour accueillir ces institutions au niveau municipal, il n'y a pas de moyens de finances publiques qui vont suivre. Après, ça sera la cacophonie, comme venait de le souligner tout à l'heure M. Cyril.
Déo Bizibou, secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et administratives, votre réaction par rapport au point de vue de Rodrigue Ramazani et Cyril Ebotoko, qui estiment que c'est bien d'organiser ces élections, mais l'État n'a pas de moyens actuellement, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a même pas de moyens actuellement pour payer les députés provinciaux. Ajouter l'élection des conseillers communaux, ça sera la cacophonie, quoi.
Merci madame, merci de m'avoir invité à cette émission ici. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent à travers le monde entier et au Congo, au Sud Kivu et à Bukavu chez moi. Je voulais dire que d'abord, ça m'étonne en ce qui me concerne. Si depuis 1987, on n'est jamais allé aux élections municipales, si depuis les années 80, un Congolais n'a pas eu sa carte d'identité dans ce pays, ce qui a donné lieu à des infiltrations, tout ça, est-ce qu'il y a un délai où on peut donner à un Congolais pour avoir la carte d'identité? Est-ce qu'on peut avoir un délai pour mettre en application les lois du pays? Je rappelle ici que tout ce qui se fait ici, je remercie mon collaborateur à gauche qui a reconnu ce que fait la CENI comme sur le plan technique, comment elle planifie les choses. Mais pour qu'on ait la carte d'identité dans ce pays, qui va nous distinguer qui est Congolais, qui est Rwandais, ainsi de suite? Il a fallu que nous fassions que Félix Antoine Tshisekedi soit au pouvoir. Pour qu'on parle de la gratuité dans ce pays, alors que la Constitution a été approuvée depuis 2006, il a fallu que cet homme soit au pouvoir. Mais, s'il vous plaît, la Constitution a été votée au référendum en 2006, nous, les deux personnes n'étaient même pas au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a empêché tout ce temps-là à ceux qui parlent aujourd'hui de mettre en application cette Constitution ici? Je voudrais dire que les lois du pays ne se discutent pas, madame. La démocratie repose sur l'application des lois, en commençant par la Constitution. Lorsque on nous prévoit aujourd'hui, et pour parler des infrastructures, madame, je viens de Kivu, madame. Mettez-vous, figurez le Kivu avant qu'on puisse découper le Kivu. Goma, Bukavu, c'était quoi? S'il fallait attendre qu'on ait des infrastructures, on n'en serait pas aujourd'hui à 26 provinces. Rappelez-vous que lorsque on s'est mis à... D'abord, l'idée du découpage part de 1992 à la CNS. Les provinces actuelles, c'est depuis 92 à la CNS qu'on a jeté l'idée de pouvoir découper. Mais de 1992 jusqu'à 2010-11, beaucoup d'années sont passées pour dire quoi? C'est d'abord la volonté politique, madame, qu'il faut avoir.
Mais qu'est-ce que ça a apporté au pays? On a des institutions provinciales, on a des assemblées provinciales, c'est tout le temps des crises entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux qui n'apportent pas grand-chose au pays aujourd'hui. Et on ajoute à cela l'élection des conseillers communaux.
Madame.
Il n'y a pas d'argent, parce qu'aujourd'hui les députés se plaignent de n'avoir pas touché leur salaire pendant plusieurs mois. Est-ce que l'État sera en mesure de payer toutes ces personnes, les députés provinciaux, nationaux, provinciaux, les conseillers communaux?
Madame, je vous ai dit que tout part d'abord de la volonté politique, madame. C'est d'abord là. Et lorsque vous dites d'où viendra l'argent, c'est dans ce pays qu'on nous a habitués à rester avec 4 milliards de dollars pendant des décennies. Mais il a fallu que Tshisekedi Félix arrive au pouvoir pour qu'on arrive à atteindre 16 milliards. N'est-ce pas? La volonté politique, c'est... L'IGF a existé dans ce pays depuis les années 80. Mais pendant ce temps-là, l'argent du peuple allait dans les poches des gens. Mais on n'avait jamais vu les gens et donc aller en prison. Mais il a fallu que Tshisekedi soit au pouvoir.
Mais vous estimez donc que c'est important d'organiser ces élections?
Parce que les lois du pays ont prévu, madame. La Constitution a été approuvée au référendum. Les lois du pays prévoient. La loi portant... Je suis très heureux. Monsieur Denis Sanga siège à l'Assemblée nationale. Où a été débattue la loi portant... la loi organique qui porte organisation fonctionnement de la CENI, y compris la loi électorale, ça a été débattu à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsque les lois sont approuvées par l'Assemblée nationale, elles s'exécutent. Et j'insiste, la démocratie
répond. Même s'il y a des problèmes qui ne permettront pas d'organiser ces élections.
Et c'est comme ça qu'exactement. Non, pas qu'il y a des points qui ne permettront pas qu'il y ait ces élections. Les élections vont bel et bien avoir lieu. Vous avez suivi les techniciens de la CENI qui le garantissent. C'est-à-dire, on va aux élections. Pour autant que c'est prévu par la Constitution, s'il faut attendre d'avoir tous les moyens, on ne les aura jamais. D'abord, la volonté politique. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps qu'on nous disait que... j'ai donné il n'y a pas longtemps l'exemple du découpage du Congo en 26 provinces. Plus que ça. S'il fallait attendre d'avoir réunir les infrastructures, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, on jette d'abord les bases. Il y a ce problème-là que moi, je situe dans le cadre des douleurs de l'enfantement. La démocratie, là où les autres ont fait des centaines et des centaines d'années, nous sommes encore en train d'évoluer à pas de tortue, dans un contexte qui est le nôtre, dans une culture qui est la nôtre, à ce niveau-là, c'est-à-dire que
on va avancer progressivement. Le plus important, c'est que, tel que les lois ont prévu qu'on aille aux élections, on voit juste, madame.
Merci, monsieur Edeo Bizibou. Merci à ces nombreux internautes qui nous suivent depuis la page Facebook de Radio Okapi. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis la ville de Lomami, la ville de Mweneditu, voilà, dans la province de Lomami, depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Monsieur Joseph Senda, c'est vrai qu'au moment où la Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, la CENCO et les CC expriment son souhait de mener un audit citoyen du fichier électoral en vue de rassurer toutes les parties prenantes afin d'avoir des élections honnêtes et pacifiques dans les délais constitutionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai qu'on a déjà évoqué plusieurs fois cette question d'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, on revient encore sur ça parce que toutes les parties prenantes, une partie de ceux qui sont avec vous n'étaient pas contents de la réponse de la CENI à leurs revendications. Aujourd'hui, la CENCO et les CCR remettent sur la table cette question. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup, madame. Je crois que pour ceux qui suivent l'actualité de notre pays, il y a quelques jours, une de nos autorité de la CENI, en l'occurrence son Excellence Monsieur le deuxième vice-président, a été sur une chaîne de radio pour justement donner des explications relatives à la préoccupation de la CENCO et SCC. Nous allons aller dans le même sens, dans l'espoir que les gens pourront bien comprendre et que la CENI a été la première institution, sans qu'elle n'ait été forcée par personne, a invité l'OIF, et nous sommes en février 2023, pour que l'OIF se prépare à auditer les fichiers électoraux. C'est pour dire que, aujourd'hui, les gens vantent, à raison d'ailleurs, l'OIF, de par sa réputation, et la CENI était consciente que l'OIF méritait bien cette considération, et comme la CENI n'avait rien à cacher, elle a recouru justement à une institution qui détient une grande expertise. Donc la CENI n'a rien à cacher, sinon elle sera allée avec les aventuriers et dans l'espoir de vouloir cacher des choses, puisqu'elle n'a rien à cacher. Elle est allée vers l'OIF, et si l'OIF n'a pas fait l'audit, ce n'est pas par la faute de la CENI. L'opinion congolaise a rebouté, a éconduit l'OIF. Donc ça c'est le premier élément qui montre que notre fichier, nous n'avons rien à y cacher. De manière tout à fait souveraine, la CENI a recouru à une autre expertise qui a fait du bon travail, qui a déposé un rapport de plus de 100 pages, de manière très détaillée. Ensuite, pendant la révision du fichier électoral, nous avons reçu 1433 observateurs nationaux et internationaux pour 22 271 centres d'inscription. Nous avons reçu demande d'accréditation d'un seul parti politique. Le pays en compte à ce jour 920 partis politiques. Un seul parti politique a sollicité l'accréditation. Nous en concluons que, du point de vue de la couverture en matière d'observation électorale, la couverture a été extrêmement faible. Et par conséquent, les conclusions qu'on nous brandit viennent d'où? Parce que personne n'a couvert de manière optimale, de manière idoine, de manière efficiente le déroulement de l'opération de révision du fichier électoral. Tout ce qu'on nous brandit, fichier ceci, fichier cela, ça vient d'où? La loi donne à la CENI le droit d'accréditer les partis et les groupements politiques légalement reconnus qui bénéficient d'une personnalité juridique. Nous avons appris, puisqu'il faut le dire, que la MUCA a fait une observation. La MUCA est une plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique, qui n'a donc pas bénéficié de l'accréditation de la CENI. En quoi a consisté son observation? S'ils ont réussi à rentrer dans nos centres d'inscription, c'est de manière frauduleuse. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans nos centres d'inscription. Et puisqu'ils n'avaient pas été accrédités, quelle est la valeur de leurs observations? Donc ici, d'une part, la CENI a, de manière souveraine, convoqué l'OIF pour faire l'audit. Des deux, la CENI a déploré la faible couverture en observation électorale. Et par conséquent, on ne peut pas comme ça s'élever un matin, commencer à dire ce fichier, il est ceci, il est cela, alors que vous ne disposez d'aucun élément objectif qui vous permette de conclure tout ce que vous êtes en train de dire.
Pour éviter toute suspicion,
nous y arrivons, s'il vous plaît. Nous y arrivons. Je vais terminer par là. Nous sommes en pleine opération de repérage de bureaux de vote parce que la loi nous oblige de publier la cartographie de bureaux de vote ainsi que la liste électorale, que nous allons le faire à travers le pays. Ça sera rendu public un de ces quatre matins parce que la loi nous l'oblige et c'est bien programmé dans notre calendrier. Alors, s'il y a des gens qui veulent bien, dès lors que les listes seront affichées, ils peuvent procéder à leur échantillonnage, ils peuvent procéder à leurs études et nous relever les limites, comme son Excellence l'a dit, et rentrer vers la CENI pour dire, voilà, à partir de ce que vous avez mis sur la place publique, parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour être critiqué, c'est fait pour relever les limites possibles qu'on peut y trouver. Donc, qu'il soit patient, un de ces quatre matins,
mais pourquoi ils ne peuvent pas le faire avant la publication des listes? Pourquoi ça ne peut pas se faire avant la publication des listes si vous ne vous reprochez de rien?
Nous les faisons en fonction de la loi. C'est la loi qui nous oblige, 60 jours avant les scrutins. C'est pas la CENI, c'est la loi électorale. 60 jours avant les listes électorales provisoires, 30 jours avant les listes définitives. C'est la loi qui oblige à la CENI de le faire. Et c'est une recommandation qui est sortie des experts, les auditeurs que la CENI a confiés à cette tâche-là. Donc nous n'avons rien à cacher. Les listes seront rendues publiques. Tout le monde y accédera. Tout le monde pourra dire ce qu'il veut. Ceux qui veulent bien procéder au fameux audit, comme il appelle audit citoyen, ils ont l'occasion de le faire parce que les données seront rendues publiques. Elles seront affichées. Même sur le web, on peut y aller. Vous pouvez tirer un échantillon. Kinshasa, c'est plus ou moins 400 quartiers. Vous allez dans un quartier, vous tirez un échantillon, vous analysez les données selon l'approche nous proposée par la mission d'observation CENCO SSC. Donc, nous n'avons absolument rien à cacher. On ne voit pas pourquoi les gens s'agitent. Ils qualifient de tous les noms les fichiers alors qu'ils n'ont pas procédé à l'observation.
Merci,
mon frère et mon ami Cyril est à côté de moi. Il sait très bien que la CENCO,
justement, il
la
va
mission
réagir,
qui a lié le plus,
il va réagir.
C'est à peu près 465 observateurs, et je crois que Cyril va me compléter. Ils n'ont pas observé plus de 500 centres d'inscription sur 22 271.
Alors, donc, il va le sait très bien ça. Parce que... Merci, Joseph Senda. On tient compte du temps, on n'a pas beaucoup de temps. Cyril et Botoko, pourquoi vous êtes agité? Attendez la publication des listes et de la cartographie.
Je salue d'abord mon frère Senda avec qui on se connaît bien. On a l'habitude d'échanger techniquement. Il a su content que les échanges aient lieu avec lui. Parce que quand il évoque le deuxième vice-président de la CENI, nous l'avons bien suivi hier. Il est passé à côté de l'essentiel. Il n'est pas rentré dans le fond du problème. Il est allé sur des considérations politiques. C'est du genre, cette femme n'est pas belle parce que sa mère est insolente. Sans cohérence ni quoi. Mais là, je rencontre un technicien qui essaie quand même de nous permettre d'aborder deux pieds sur terre ce sujet. Je répète d'abord sur l'élément de couverture. Quand M. Senda a dit que nous n'avons pas couvert 500 centres d'inscription, je regrette parce qu'il a été parmi ceux de la CENI lors d'une réunion qui a reconnu l'efficacité de notre échantillon. L'observation que nous avons faite, c'est ce qu'on appelle SBO en anglais, c'est-à-dire l'observation basée sur l'échantillon. Et M. Senda a vu, nous lui avons démontré que nous avions couvert un peu plus de 30% des centres d'inscription, un échantillon tiré de manière aléatoire. J'irais bien parce que le vice-président de la CENI, il s'est hasardé de dire des choses comme ça. Il n'y avait aucun observateur de la CENCO dans la CHOPO. Quand vous tirez un échantillon aléatoire, vous allez là où l'échantillon vous indique d'aller. Si l'échantillon n'a pas retenu un seul centre dans la ville de Kisangani, vous n'êtes pas là, vous êtes là où l'échantillon vous a envoyé. Si vous prenez la route qui va vers Matadi ici, notre échantillon ne nous a pas donné beaucoup de centres sur cette route. Quand vous y allez, vous direz, je n'ai pas vu des observateurs. Nos observateurs ont été là, nos rapports sont traçables.
Nous avons couvert la moyenne de couverture par observateur, c'est 20 centres. C'est 20 centres d'inscription. Et nous avons des rapports qui sont dans notre... Celui qui doute, il passe dans notre bureau, dans notre système, il verra les noms des observateurs et les rapports qu'ils ont envoyés par centre d'inscription. Là, ça n'appelle même pas une discussion. Donc, je suis étonné que ce monsieur Senda qui le dit, parce qu'il a dit, lui, devant plusieurs personnalités de la CENI, lors d'une réunion, que oui, ils ont un échantillon qui couvre 30% un peu plus. Donc, c'est un peu étonnant,
alors,
mais je comprends.
Alors, à présent de votre souhait de mener un audit citoyen du fichier électoral, en vue de rassurer toutes les parties prenantes, selon votre communiqué.
Oui, madame, vous savez, dans un processus électoral, la confiance, l'opinion publique, la confiance du public, c'est comme le sang dans un corps humain. Vous pouvez appliquer les lois correctement, vous pouvez tout faire. Mais si le public n'a pas de confiance dans ce que vous avez fait, ce processus va souffrir de légitimité et ce n'est pas mon frère Senda qui va me contredire. Ici, nous sommes au-delà de tout ce qu'il a développé ici. Il y a eu observation électorale, il y a eu des choses, il y a eu des audits. Mais maintenant, je vais paraphraser la communauté internationale qui nous voit du sens comment on travaille. L'audit qui a été mené par la CENI n'a pas permis une perception d'un travail qui aurait été réalisé dans la transparence et dans l'indépendance. C'est au niveau de la perception. Dès lors que la perception est telle, il faudra travailler pour instaurer la confiance. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, madame. L'une des fonctions d'une élection, c'est permettre une lutte pacifique pour l'accession au pouvoir. Si vous biaisez cette lutte pacifique, je ne sais pas ce que vous voulez en ce moment-là que les gens doivent faire pour accéder au pouvoir. Notre pays, une partie occupée à l'est par le M23. Vous avez les Mobondo qui touchent même une partie de Kinshasa. Les bruits, ces bruits de bottes ne peuvent pas nous permettre d'avoir dans notre pays un procès électoral biaisé. C'est là où nous sommes. Nous avons vu qu'il y a une grande opinion, une grande partie de l'opinion et quelques acteurs majeurs politiques de notre pays qui boycottent le processus à cause du fichier électoral. Nous sommes étonnés au niveau de la CENCO et de l'ECC. Nous sommes étonnés.
Et c'est votre audit qui va légitimer, qui va donner, disons, légitimer les résultats de l'audit du fichier électoral.
Contribuer. Nous, on ne prend pas. Ce que je dis, je voudrais dire, c'est que l'observation électorale participe à la transparence. Et la transparence est l'un des éléments qui contribue à cette confiance. Parce que si les citoyens sont au courant de ce qui se passe, tout est transparent, ils font confiance au processus. C'est ce que nous, on voudrait amener. Nous sommes étonnés de voir tous ces bruits. Les agitations dont parle M. Senda, ça ne vient pas de nous. Vous avez vu depuis que nous avons parlé de cela, c'est toute la CENI qui est en ébullition. Ils ont fait ceci. Le vice-président dit même que nous voulons co-gérer la CENI avec la CENI. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, nous ne sommes pas là.
Mais est-ce que cela ne risque pas d'impacter négativement sur le calendrier électoral?
Lisez, les gens doivent apprendre à lire les textes. Notre mémo est là. C'est bien clair. Ça n'a rien à faire avec le temps, ça n'a rien à voir avec le calendrier. Nous ne souhaitons même pas qu'avec ce travail-là, on puisse arriver à l'arrêt du processus. Nous avons même dit que nous allons le faire en très étroite collaboration avec la CENI et même le rapport qui doit être publié, la CENI et nous devons nous entendre sur comment le faire. Donc nous nous mettons vraiment dans les bras de la CENI pour l'aider à lever cet écueil autour du fichier et qu'elle puisse avancer convenablement avec les processus électoraux. Nous voulons aider la CENI, le bénéficiaire, la bénéficiaire de ce processus. C'est la CENI. Nous sommes étonnés, quand vous suivez M. Manard hier, je ne sais pas s'il parlait au nom d'un parti politique ou quoi, on ne sait pas, il a taxé les gens de tous les mots, c'est pas quoi, nous sommes des partenaires. Ils gèrent les processus, nous on a une voix pour contribuer à la crédibilité de ce processus, et à la forte légitimité des autorités qui seraient élues demain, partant des rapports que nous livrons à la population pour leur dire que ça va, ça s'est bien passé, ainsi de suite. Je répète, l'une des fonctions des élections, c'est pour permettre un accès pacifique au pouvoir.
Merci Cyril Botoko, Rodrigue Ramazani, porte-parole d'Envol, parti politique de l'opposition, dont l'initiateur est Élie Sessanga. Comment vous analysez ce souhait de la mission d'observation électorale, CENCO-FCC, d'auditer à nouveau le fichier électoral?
Avant d'en venir, permettez-moi de ne pas laisser certains propos venant de la majorité au pouvoir qui crie aux cartes d'identité. Je tiens à rappeler aux Congolais que ça fait plus d'une année que le président de la République avait aussi les spécimens de permis de conduire et que jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont pas de permis de conduire. Donc, il ne faut pas se festoyer parce que vous avez encore un autre spécimen des cartes d'identité. L'autre chose, volonté politique, pouvait tout résoudre. Toi, démontrer que autant de volonté politique, je ne sais pas s'il faut le mettre sur une balance. La volonté politique de Félix Tshisekedi pèsera seulement des centaines de tonnes, mais qu'aujourd'hui, face à cette volonté politique, il n'y a ni sécurité au pays, au-delà de sa volonté politique. La route de Kalamambouji, d'où je viens, au Kassai central, après 2 ans d'exécution du projet, argent mis à disposition, rien n'a été toujours fait. Au-delà de sa volonté politique, nous avons une inflation galopante. Donc ce qui veut dire, monsieur, la volonté politique ne suffit pas. Il faut encore avoir des méthodes de travail pour réaliser 16 milliards de budget, vous dites. Peut-être que vous ne le savez pas, je tiens à vous informer que c'est depuis le mois de janvier que les trésors publics encaissent des déficits en termes de recettes. Donc nous attendons d'ici le début de la session budgétaire au mois de septembre, nous aurons un peu plus de ce que vous appelez 16 milliards à travers la réduction de comptes.
Alors, vous pouvez répondre maintenant à ma question, parce qu'on court vraiment derrière le temps.
Une dernière chose, il a dit que la loi électorale existe, ils sont en train d'exécuter la loi électorale. Nous, on ne refuse pas, il faut exécuter la loi électorale, mais diriger, c'est prévoir. Vous aurez dû prévenir dans le cadre de votre politique que vous allez organiser les élections municipales, mettre en place et réfléchir autour sur tout ce qui devait concourir pour en bien faire la d'administrabilité de notre province, de nos communes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, tout porte à quoi? Vous êtes toujours dans votre tâtonnement habituel. Donc, c'est ce qui explique votre échec durant tout ce mandat. Je vais directement répondre à votre question. Mais nous, comme toutes les autres forces politiques de l'opposition, nous insistons sur l'audit du fichier électoral. L'audit vrai, pas cet audit fait par les copains et copines de M. Kadima à travers cette série monolithique qui n'a aucune crédibilité. Finalement, je ne sais pas, vous savez, le processus électoral fonctionne sur base d'une trilogie. Le processus électoral n'appartient pas à la CENI. Le processus électoral n'appartient pas à l'Union sacrée dont ils font aussi partie, tous. Le processus électoral appartient aux parties prenantes, l'opposition, majorité et société civile. Comment l'opposition exige l'audit indépendant du fichier électoral, la CENI refuse. La société civile, à travers les 2 églises, demande, réitère la demande, la CENI refuse. C'est un peu pour croire. Nous sommes un peu dans le cas d'un homme qui a mis son pantalon sans mettre sa petite culotte. Il suffit de lui demander de bouger un peu, il a peur. Nous nous demandons qu'est-ce que la CENI cache derrière. Qu'est-ce que la CENI cache derrière? Parce que le combat ici, c'est de rétablir la confiance. Nous voulons un processus électoral inclusif. Les autres se méfient du processus électoral. La société civile fait cette démarche en vue de rétablir la confiance électorale avec les autres parties prenantes. La CENI refuse parce qu'il estime que ce processus électoral lui appartient. C'est pourquoi nous, en l'envol, on a dit. Face à ça, ils ont refusé de recomposer la CENI, régulariser la Cour constitutionnelle. Ils ont violé toutes les lois de la République. Nous disons, pour nous, nous allons aux élections. Nous n'allons pas jouer au jeu des déboutants et des déboutés. Nous avons déposé nos listes. Nous allons participer, mais seulement avec des bémols. 1. Les Congolais doivent aller voter massivement. 2. Les Congolais feront l'audit du fichier eux-mêmes le jour du vote. 3. Les résultats que nous allons comptabiliser, que nous allons considérer tant qu'opposition, ça ne sera pas de M. Kadima parce que sa CENI n'a aucune crédibilité. Ce sont les résultats qui viendront de l'église catholique et l'église protestante. Telle est notre position aujourd'hui. Parce que la CENI joue le jeu de la majorité, nous n'allons pas continuer à jouer sur ce terrain-là. Comme ils veulent accompagner le pouvoir dans cette anarchie que le pouvoir a instaurée, nous allons appliquer l'article 64 à travers la population qui a le droit de rétablir
de rétablir l'ordre constitutionnel qui sera biaisé. Le président de la République est élu. Le président de la République ne devient pas président par compromis. Ce qui s'est passé en 2018 ne reviendra pas, soyez-en sûrs.
Déo Bizibou, secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et administratives, qu'est-ce que vous pensez de l'année marche de la mission d'observation électorale de la SENCO de l'ECC?
Pour ça, je dirais que la Constitution reconnaît à tout Congolais le droit de formuler une pétition vers l'autorité. Et l'autorité peut répondre. Et ça, pour cela, nous sommes battus dans ce pays pour la démocratie, nous, depuis pendant 37 ans avant d'accéder au pouvoir. C'est un droit tout à fait légitime. Et la CENI, il réagit. Mais permettez-moi de dire quand même que je constate des changements dans les attitudes des personnes. Et si je fais allusion à mon co-débatteur d'envol, c'est comme si nous trouvions dans un autre pays. Il oublie que quand Kagame décidait de prendre Goma, Bukavu et Uvira, une semaine suffisait. Une semaine suffisait. Goma, Bukavu est tombé. J'arrive.
On est toujours dans les élections, là où vous...
Mais parce qu'il a fait allusion à ça, que nous avons échoué. Regardez.
Non, on ne va pas. Ce n'est pas une émission pour dresser le bilan, s'il vous plaît. On va parler, on parle des élections, s'il vous plaît, M. Déo Bizibou.
S'il vous plaît. Vous ne voulez pas que je le réponde
pas. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, on va directement sur les élections, sur la démarche de l'ECC et la SENCO.
Je disais que c'est une démarche tout à fait légitime. La CENI y réagit. Et moi, je voudrais insister. Heureusement que vous avez invité Mme la CENI. Vous l'avez invitée. Le temps où le parti au pouvoir défendait la CENI est révolu. La CENI, c'est une institution qui est instituée par la condition du pays, comme institution d'appui à la démocratie. Quel est le changement que moi je constate? C'est que lorsque nous étions pris en tenaille, l'autre Tshisekedi Félix était pris en tenaille par les FCC cash, en ce moment-là, les opposants disaient allons aux élections, même pas une seconde, un jour de plus. Ils le disaient. Mais lorsque on fait sauter les verrous, FCC ou Félix Antoine Tshisekedi prend les choses en main, commente, et en ce moment-là, on dit voilà, il faut dialoguer, il faut machin. Madame, je vous rappelle, madame, nous sommes dans ce pays où nous avons vu pour mettre en place le président de la CENI, qui devait être issu de confessions religieuses. On a pris à peu près 2 ans pour seulement désigner le président de la CENI. Et moi, je constate quoi? Que nous sommes en train d'évoluer. Là, je remercie nos frères d'envoi les d'autres. Mon frère, on ne peut pas chercher une chose de son contraire. D'un côté, on ne fait pas confiance. Et de l'autre, on dépose les candidatures. Mais ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. Nous sommes régis par les lois du pays. Tout va se faire conformément aux lois du pays. Nous constatons que, selon ce que la CENI nous a donné comme résultat,
Mais il y a quand même cette crise de conscience, cette crise de confiance entre les parties prenantes au processus électoral. Auditer à nouveau le fichier électoral, est-ce que ça ne va pas restaurer cette confiance?
Je vous ai dit il n'y a pas longtemps que M. Delis Sanga siège à l'Assemblée nationale. Le débat a eu lieu, et le débat, ce n'est pas dans les institutions, dans l'Assemblée nationale. Mais si le débat a eu lieu, et parce que le co-débatteur a voulu venir encore à une notion très importante, qu'on revienne d'où viennent que on siège à l'Assemblée nationale, mais on veut remettre en cause l'institution dans laquelle on... N'oublions pas que la CENI, c'est le fruit. La CENI est investie par l'Assemblée nationale, où les amis siègent. N'oublions pas, madame, que la Cour constitutionnelle, elle aussi, il y a des juges qui viennent aussi de l'Assemblée nationale. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que si nous devons remettre en cause l'Assemblée, les institutions, l'Assemblée nationale, alors on va s'appuyer sur quoi? Ça veut dire quoi? Je reconnais que le processus, il est là. Madame, nous n'aurons jamais d'unanimité dans ce pays. Ça ne viendra jamais. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la volonté d'aller de l'avant y est. Moi, je viens de Bukavu. Mais quand vous posez aux gens la question, est-ce que vous voulez aller aux élections? Ils disent, on veut aller aux élections. Madame, la CENI, contrairement à la fois passée, où il y avait 15 000 candidats à peu près, la CENI dit qu'elle a enregistré à peu près 25 000 candidats aux élections nationales et des députés nationaux. Voyez-vous? Donc, on va continuer. Il y avait des plaisanteurs qui ne voulaient pas qu'on puisse aller aux élections, mais nous allons évoluer progressivement. On va aller aux élections, madame.
Merci Déo Bizibou Balola. La réaction me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même prendre très rapidement tous ces auditeurs qui nous ont appelés pour donner leur point de vue par rapport au sujet de ce soir. On va commencer par cet auditeur de Kinshasa.
Alphonse Tchefou, depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que la CENCO et l'ECC sont allés au-delà de leur mission pastorale. Car la CENCO et l'ECC sont à l'origine du retard que connaît la CENI actuellement. Et ils ne veulent pas la tête de Kadima. C'est pourquoi ils travaillent dans le sens de lui faire porter l'échec. Cependant, j'encourage la CENI d'aller en avant car le temps n'est plus à perdre.
Alors, une minute pour réagir et vous conclure. Vous allez en profiter aussi pour conclure. On est vraiment à la fin de l'émission.
Je ne sais pas là où ce monsieur pris pour avoir une idée de ce qu'il comprend par charge pastorale de l'ECC de la CENCO. Je lui dis que ces deux églises travaillent pour l'homme. Et cet homme, il est économique, politique, social et consort. Et c'est dans toutes ces dimensions de l'homme qu'on l'accompagne. Donc sur le plan politique aussi. Et l'ECC de la CENCO travaille pour la paix. Ce qu'on veut, c'est que ces élections ne nous amènent pas dans la violence, dans des contestations violentes, alors que nous avons des situations, une situation sécuritaire déjà délétère. C'est pourquoi la CENCO et l'ECC, soucieux du bien-être de l'homme congolais qui doit vivre dans la paix et le bien-être, ces deux confesseurs religieuses travaillent pour des élections crédibles.
Merci Cyril Ebotoko. On va se rendre à présent dans la province de La Tchopo, dans la ville de Kisangani, pour écouter cet autre auditeur.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de La Tchopo. La convocation de l'électorat pour les élections provinciales et municipales par la CENI témoigne, à mon avis, la détermination de cette institution d'appui à la démocratie d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, peu importe les divergences qui planent autour de ces animateurs et du fichier électoral. Quand on analyse les communiqués de la CENCO et de l'ECC, il y a lieu de conclure que ces deux grandes confessions religieuses n'ont fait que rallier la position de l'opposition qui n'hésite que par un nouveau audit du fichier électoral pour adhérer au processus. Ce qui laisse d'ores et déjà présager les grandes contestations des résultats des futures élections au cas où la CENI s'est cantonnée sur sa position. Le président de la CENI doit éviter de faire un forcing et accepter les recommandations des uns et des autres pour restaurer un climat de confiance et de paix avant, pendant et après les élections.
Joseph Senda, en une minute, comment vous répondez à cet auditeur? Ça sera aussi votre conclusion.
Merci beaucoup, madame. Je ne veux pas beaucoup m'étendre parce qu'en fait, c'est tout à fait clair. On se souviendra qu'en 2018, nous avions 15 000 candidats à la députation nationale. Aujourd'hui, nous en avons 25 000. C'est un signe d'adhésion et de pleine confiance en ce que nous faisons. Sur 78 regroupements politiques, 73, au moins 70 sont avec nous dans le processus électoral. Nous avons quatre grands poids lourds de l'opposition, Moïse, Augustin, Sesanga, Moussito. Pour nous, c'est un signe qu'on nous fait pleinement confiance et en tout ce que nous sommes en train de faire. Vouloir nous distraire dans le fameux audit, bon, on ne peut pas le refuser parce qu'en fait nous sommes en démocratie. Mais je voudrais ici faire comprendre à mon ami Cyril que la perception, elle est subjective. Il a fait allusion à la perception que s'est fait la communauté internationale. La perception est subjective. Elle n'est pas objective, elle est fonction des intérêts. On oriente son raisonnement en fonction de ce qu'on veut. Alors, une petite question. Est-ce que mon ami peut dire le nombre de centres d'inscription qu'ils avaient visité? À ce que je sache, il avançait, je crois, dans une rencontre, qu'ils aient autour de 450 centres d'inscription. Si je prends 30%, c'est 6681. Je ne sais pas si vraiment la mission d'observation de la CENCO-ECC avait couvert 6681 centres d'inscription, qui correspondent à 30% de 22 271 centres d'inscription. Donc nous nous sommes confiants, j'ai donné quelques éléments d'adhésion, le nombre important des candidats, 25 000 candidats à la députation nationale contre 15 000 en 2018, au-delà des 70 regroupements politiques sur 78 sont dans les processus, quatre grands poids lourds de l'opposition sont dans le processus.
Merci, Joseph Senda, vous l'avez déjà dit.
Moussito, peut-être d'autres.
On vous a suivi.
Nous sommes à l'aise.
Merci, voilà. Joseph Senda. On va se rendre dans la province du Maniema cette fois-ci pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
David Soumaïli Moussafiri, depuis Wamaza dans la province du Maniema. Tout en saluant les avancées significatives du processus électoral, je soutiens aussi l'idée de la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC qui, à mon humble avis, permettra non seulement à restaurer la confiance de tous en tout, mais aussi et surtout d'éviter d'éventuelles crises de force électorale, comme ça a été le cas aux élections passées. C'est sûr et certain que jusqu'à maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est rassuré qu'on ira aux élections dans les délais constitutionnels. C'est soit à cause de la situation sécuritaire et de moyens tant matériels et financiers pour y parvenir sans encombre. C'est pourquoi cet audit est très important, voire très nécessaire, dans lequel la CENI pourra fixer l'opinion, tant nationale qu'internationale, de la tenue des élections selon les calendriers et les délais constitutionnels, mais aussi les moyens pour y parvenir.
Déo Bizougou, brève réaction.
Cette question devait être adressée à la CENI qui a déjà répondu, je pense, mais je voudrais juste rapidement corriger en disant que lorsqu'on proclame l'élection de la présidentielle la fois, et du cycle passé, on a vécu combien les Congolais ont porté Tshisekedi Félix à travers toutes les villes du Congo avaient vibré. D'où vient qu'on vienne parler des compromis et consorts?
On n'est pas dans les compromis, il faut conclure.
Je réagis en passant. Je conclue en disant que chacun doit faire son travail. Les acteurs politiques doivent s'activer suffisamment. Ceux-là qui pensaient que l'élection ne viendrait pas sont en train de savoir finalement qu'on est en train d'aller aux élections. Eh bien, il faut aller aux élections. Laissons la CENI faire son travail. Les acteurs faire leur travail. La société civile émettre les avis, les points de vue, c'est tout à fait ça, la démocratie. Je pense qu'elle n'est pas, elle n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, non. Mais plus on va aller de processus en processus, de 2006 à ce jour, vous rendrez compte qu'en 2006, il y a eu une guerre ici à Kinshasa entre Jean-Pierre Bemba et l'ancien président, M. Kabangé. On a évolué en 2000, on l'a expliqué, il y a eu 2018, ainsi de suite. Donc plus on va évoluer, plus ça va s'améliorer, madame.
Merci Théo Bizibou. On va prendre à présent cette dernière réaction. Ça sera pour vous, Rodrigue Ramazani, cette réaction qui nous vient de la ville de Lubumbashi.
Mike a été depuis la ville de Lubumbashi. Il est vrai que le processus électoral soit un levier pertinent, dont la finalité serait celle de nous donner des élections inclusives auxquelles toutes les parties prenantes devrait faire conscience et que les choix des électeurs seraient respectés. À mon humble avis, je crains que l'expression liée à la restauration des consciences articulée par la CENCO intervienne dans le moment inopportun. Car si cette dernière pouvait disposer la même posture d'insister sur la restauration des consciences dès le départ, peut-être qu'il n'y aurait pas des contestations manifestées par certaines parties prenantes.
Commentaire.
Madame, je crois que tout est clair. Les compatriotes ne s'est pas trop écartés de ce que nous sommes en train de dire sur le lien de confiance qui doit exister entre les différentes parties prenantes. Nous pouvons comprendre la majorité et sa CENI monolithique qui ne jure que par la fraude électorale depuis le début de ce processus, ce fraude électorale que nous continuons à dénoncer et à décrier. Mais tout compte fait, madame, je tiens à insister, que nos amis le sachent, que M. Tshisekedi ne sera pas président de la République après les élections. M. Tshisekedi ne doit pas continuer à compter. Ne doit pas continuer à compter par la compromis à l'africaine. Le président de la République démocratique du Congo est élu. Et non, il devient président par compromis. Alors, les Congolais, le jour des élections, iront voter massivement. Parce que nous le savons, ils veulent nous faire dégoûter le processus électoral pour laisser un boulevard à un président de la République qui a échoué.
Merci Rodrigue Rabazani. Malheureusement Cyril, il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. On va.
Vite chez nous pour vérifier. Je pense qu'il a un problème avec son administration.
On va organiser une autre émission sur ce sujet. Ouais. C'est une promesse. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.